6h02, mercredi 12 décembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM avec quelques flocons de neige ce matin, très léger. C'est froid, c'est autour de moins 9 degrés, ça va demeurer pas mal autour de ça pour l'ensemble de la journée. Température très stable pour ce soir et cette nuit, ciel dégagé avec un minimum de moins 15. Et pour demain, c'est du soleil, quelques nuages peut-être en mi-journée, température autour de moins 7. Et finalement, pour la journée de vendredi, on prévoit un peu de neige, nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige, donc avec un maximum de plus 2. Et plus on va vers le week-end, plus on risque de se retrouver avec des températures au-dessus de zéro. Là, samedi, on parle de 3, 4, 5 degrés et possiblement de la pluie intermittente. Bon, d'abord, un mot sur l'affaire Ozon, que Monique vous a résumé il y a quelques instants. On va regarder les faits. Je pense que c'est ça qui est important. Les faits sont les suivants. Il y a 10 plaintes, au moins, qui ont été rejetées par le DPCP. Donc, il n'y a aucune accusation. Et le DPCP doit rencontrer des victimes présumées, des plaignantes, encore aujourd'hui. Est-ce que ce sera terminé aujourd'hui? Est-ce que ça va aller à demain? On verra. Mais pour l'instant, on sait que les dossiers rejetés, il y en a 10. Et il y a toutes sortes d'informations qui circulent sur le fait qu'il y aurait une accusation, un dossier, en fait, dans lequel il y aurait une accusation. D'autres disent que non. Alors, on va prendre ça tranquillement, on va attendre. Et ce qu'il faut aussi comprendre dans un cas comme ça, c'est que, et on l'a répété hier, dans un procès au criminel, il faut être capable d'avoir une preuve suffisante pour aller devant un juge. Et on peut vous donner des exemples où le procureur va décider qu'il y a de la matière, mais peut-être pas assez pour convaincre. Est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce qu'on a des témoins? Est-ce que la preuve est assez forte? Est-ce qu'on peut vous croire, mais on n'est peut-être pas capable de le prouver? Et combien de fois j'ai entendu ça d'enquêteurs qui disent « on sait qui a fait quoi » ou que cette personne-là est coupable ou victime, mais on n'a pas les preuves. Et tant mieux dans un sens. Évidemment, pour pas que des gens qui soient innocents se retrouvent en prison. Mais c'est clair que dans des cas d'abus, d'agression sexuelle, d'attouchement, quand les événements remontent dans le temps, c'est toujours assez complexe d'aller présenter une preuve. C'est sûr qu'on a entendu plein de trucs sur le fait que des policiers qui ont été mêlés dans le dossier, et c'est souvent le cas, les policiers disent « moi, je pense que j'en ai assez de matériel », puis le procureur dit « ben non, j'en ai pas assez », puis c'est moi qui décide. Alors, on est dans ce contexte-là. Attendons de voir quand toutes les rencontres seront faites, compte tenu du nombre de plaignantes. Évidemment, c'est plus long, et ça devrait être conclu d'ici la fin de la semaine, peut-être même avant, donc on verra. Deuxième nouvelle ce matin, c'est bien sûr ce qui s'est passé au marché de Noël de Strasbourg. Regardons également les faits. C'est un homme qui a ouvert le feu vers 19h50 à Strasbourg. Au total, trois endroits, trois points de la ville qui ont été le théâtre de coups de feu. Le bilan bouge beaucoup. Le dernier, trois personnes sont mortes, 13 sont blessées, dont 8 dans un état grave. Le tireur est en fuite. 350 policiers sont mobilisés pour tenter de le localiser. La France passe en posture urgence attentat, quoique ce matin, il y a des informations qui disaient qu'on n'était pas convaincus que c'était, à proprement parler, un attentat terroriste. Le gars était en démêlé avec la justice pour des intros, des vols. Il y a d'ailleurs des antécédents judiciaires assez importants. Et on pense également, et encore là, ça reste à être démontré, on est plus à l'étape de certaines rumeurs qui circulent, donc qu'il est soupçonné d'être le cerveau d'une affaire d'extorsion à domicile. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui agit par conviction religieuse, politique, ou c'est un criminel? Parce qu'il y a eu des perquisitions, les policiers se sont rendus chez lui avant même donc l'événement. Il n'était pas là, et c'est en soirée que finalement il a été localisé, si on veut, c'est-à-dire au marché de Noël. Et j'écoutais hier à la télé française le témoignage d'un employé de restaurant. C'était assez bouleversant parce que 20 heures, bon, restaurant bondé, c'est le marché de Noël, c'est un événement qui attire des touristes. Et il racontait que les gens étaient en train donc de partager le repas. Et il y a une femme qui s'est levée pour aller à la salle de bain. Et là, les détonations ont été entendues. Et devant le restaurant, un homme a été touché à l'abdomen. Et c'était le mari de la femme qui était à la salle de bain. Donc, elle est entrée parce qu'elle serait probablement morte. Elle est allée à la salle de bain. En sortant, elle a vu son mari qui était au sol. Les gens du restaurant, dans l'attente de l'arrivée des premiers secouristes, ont voulu donner les premiers soins, essayer de stopper l'hémorragie. Et malheureusement, l'homme en question est décédé. Alors, ce sont les informations qui sont disponibles pour l'instant. Et on peut dire aussi que le confinement a été levé, parce que les gens, pendant de nombreuses heures, sont demeurés dans le noir, dans leur appartement ou dans des restaurants. Les écoles, collèges et lycées seront ouverts, mais les parents qui veulent pourront garder leurs enfants donc chez eux. Et les manifestations programmées demain sont interdites compte tenu de la situation. Alors ça, c'est le cas du fameux dossier Strasbourg. Et c'est un endroit, d'ailleurs, qui avait fait l'objet de plusieurs complots, des complots qui avaient été quand même déjoués par les autorités policières. Revenons ici. Les 15 villes défusionnées de Montréal souhaitent pouvoir se retirer du projet de tarification sociale qui est une idée de la mairesse Plante. En gros, son résumé, là, c'est que la mairesse a promis de réduire le coût du transport pour les gens qui sont à faible revenu. Alors, on pense, entre autres, à des personnes âgées et qu'on est en train de faire une étude là-dessus. Alors, ça pourrait aller là, de la gratuité pendant des périodes hors pointe, des tarifs réduits. Bref, rendre le transport en commun moins cher pour des gens qui ont pas assez de revenus. Et là, les villes, ce qu'elles disent, puis là, c'est une bataille de points de vue, nous, on pense que c'est au gouvernement du Québec de prendre ce type de mesures sociales et que nous, comme élus, comme gestionnaires du système de transport en commun, on doit plutôt gérer le prolongement ou l'amélioration du service. Quand on veut avoir des tarifs sociaux, on pense que ce n'est pas dans notre cours. Alors, c'est dans la presse que vous allez retrouver ça ce matin. Parlons aussi de la Chine. Beaucoup de nouvelles concernant la Chine. On sait qu'officiellement, c'est une trêve entre les États-Unis et la Chine, une trêve donc qui a été décrétée sur la guerre commerciale. On sait également qu'il y a eu hier cette remise en liberté de la grande dirigeante de la compagnie Huawei, fille du fondateur. Et là, ça veut dire qu'il y a 16 conditions pour sa remise en liberté. 24 heures, elle sera surveillée. Et on sait qu'elle veut se battre contre son extradition aux États-Unis. Alors, si on rappelle les faits vite, là, elle est en transit à Vancouver. Les Américains qui la suivent demandent aux Canadiens de l'arrêter. On la soupçonne d'avoir contourné l'embargo contre l'Iran. Et donc, le Canada procède dans ce dossier-là. La Chine est en colère. La Chine demande au Canada de la remettre en liberté. Le Canada refuse. La Chine menace le Canada de représailles en disant qu'on va payer très cher l'arrestation de Meng Wanzhou. Et puis, arrive cette nouvelle hier, alors qu'on apprend qu'un ex-diplomate canadien, Michael Kovrig, est détenu depuis lundi soir par les autorités chinoises. Donc, c'est un ancien diplomate. Il est détenu à Beijing. Et comme il n'y a pas de coïncidence en Chine, on peut conclure facilement que c'est relié directement à l'affaire Huawei. M. Trudeau a confirmé donc que le Canada avait été informé. Alors, pourquoi est-il détenu? Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est pas clair. C'est quelqu'un donc qui a été diplomate et qui œuvre maintenant pour une entreprise privée. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi lui, pourquoi il a été arrêté le jour même de la comparution de la dirigeante de la compagnie Huawei. Alors ça, c'est le premier volet concernant la Chine. Deuxième chose, vous savez peut-être, là, si vous suivez, disons, ce qu'on appelle les cyberattaques, la chaîne Marriott, la chaîne d'hôtels, a été ciblée par des pirates qui auraient réussi, et c'est en septembre dernier, à avoir des infos sur 500 millions de personnes. Donc ça, c'est la banque de données de la chaîne d'hôtels. Et ils sont de plus en plus convaincus que ce sont les Chinois qui sont derrière l'attaque contre Marriott. Et quand je dis 500 millions, là, c'est quand même énorme. Ce sont des données colligées depuis des années par la chaîne d'hôtels. On aurait également visé des compagnies d'assurance et aussi des individus qui peuvent avoir accès à des informations privilégiées, confidentielles, et pour lesquelles il y a des codes de sécurité qui ont été émis. Alors, on est convaincu que les suspects travaillent pour le ministère de la Sécurité de l'État en Chine, qui est en fait une agence officiellement de civils, mais contrôlée par le gouvernement, et qui est une agence d'espionnage, et que tout ça est en réaction aux menaces de l'administration Trump, et que d'autres attaques pourraient être également lancées contre les systèmes américains. Tout ça se passe un peu dans notre dos. Comme je vous dis, dans le cas du Marriott, la nouvelle est tombée officiellement il y a quoi, 2 jours, mais dans le fond, l'attaque s'est produite au mois de septembre. Et ce n'est que maintenant qu'on peut en parler. On va aller retrouver Marc, 6h12, les points chauds. Très bien. C'est une nouvelle, enfin, c'est le genre de nouvelle, moi, qui me fait toujours un peu sursauter. Il y a du monde vraiment malade, là. Les services frontaliers canadiens, c'est une nouvelle de la CBC, ont saisi au cours des 2 dernières années des dizaines de poupées érotiques ayant la taille et les traits d'enfants. Des défenseurs des droits des enfants craignent que l'importation de tels objets n'encourage l'exploitation de personnes mineures. On a saisi 42 de ces poupées érotiques en 20 mois. Des enfants, là, en plastique. Et les objets qui reproduisent les parties du corps sont considérés par la police comme des éléments de pornographie juvénile. Des saisies ont lieu au Québec. D'autres poupées ont été confisquées à Vancouver, Edmonton, Calgary et Toronto. Et écoutez bien celle-là, là. La valeur des jouets érotiques va de 50 $ à près de 8 000. Faut pas être tordu. Les documents montrent des descriptions détaillées des poupées qui permettent de comprendre pourquoi elles sont considérées comme de la porno juvénile. Les poupées ressemblent à de jeunes filles prépubères. Hein, on est là-dedans. D'autres kits comprennent des éléments chauffants, des vêtements, des têtes interchangeables, des pinces, des brosses à cheveux. Et c'est de fabrication chinoise, encore une fois, et japonaise. Alors, les poupées saisies ont été remises, dans tous les cas, à la GRC ou à d'autres services de police là, pour les fins d'enquête. Et là, on verra si on va être capable de remonter. Il y a un homme de Saint-Jean, à Terre-Neuve, qui fait face à des accusations de possession de pornographie et qui sont liées, donc, à ce commerce illégal. Puis là, encore une fois, région de Québec, 4 élèves de l'école Samuel de Champlain qui ont été suspendus parce qu'ils ont échangé des photos explicites d'une adolescente. L'enquête porte sur un cas allégué de possession et de distribution de pornographie. Après un signalement de la commission scolaire des premières seigneuries, le cas a ensuite été confié à l'unité de l'exploitation sexuelle des mineurs. Alors, on ne peut pas dire de quelle façon les photos ont été partagées. Il n'y a pas eu de chantage comme l'autre cas qu'on a vu là, à Québec, là, dans une autre école privée cette fois. Mais ce qu'on confirme donc, c'est qu'il y a des mesures qui ont été prises par les gens de la commission scolaire dès le moment où la victime a porté plainte. Tous les élèves et leurs parents visés ont été rencontrés par la direction de l'école. Et là, on attend de voir. Il y a des élèves, en tout cas, qui ont été suspendus. C'est une autre affaire, ça. C'est quoi l'idée de prendre ou de se laisser prendre en photo, nu ou partiellement nu, là, en sachant que ça peut devenir soit un outil de chantage ou carrément d'intimidation. Je me souviens de parents qui, il n'y a pas si longtemps, m'écrivaient puis que leur fille vivait ça. Qui ne savait pas quoi faire. Est-ce que je porte plainte à la police? Est-ce que je porte plainte à l'école? Ça va-tu être pire pour ma fille? Puis elle côtoie tous les jours les personnes. Puis là, c'était dans son cas. C'était son petit copain qui lui a dit « Fais-moi donc plaisir. » Puis elle a accepté de se dénuder partiellement. Rupture. Le gars ne le prend pas. Il se venge, puis il partage la photo. Classique, me direz-vous? Oui, mais tu te dis « Mais pourquoi ça fonctionne encore? » Ça a l'air que la nature humaine étant ce qu'elle est. Bon, on a encore une preuve ce matin, appelons ça de la peur du gouvernement fédéral face aux géants du numérique. Ça inclut évidemment Google, ça inclut Netflix, Facebook. Et c'est la ministre Mélanie Joly, Journal de Montréal ce matin, qui dit qu'elle ne peut pas garantir qu'on va taxer la location de logements Airbnb. On sait que Québec taxe, la Colombie-Britannique taxe, plusieurs États, donc, imposent des taxes en disant c'est comme une forme, donc, de location professionnelle. On ne parle pas ici de prêter ou de louer un appart à un ami, là, mais il y a des règles qui établissent ça. T'sais, au moins, le Québec se tient debout. Mais le fédéral, j'ai posé la question à M. Trudeau, je ne sais pas s'ils sont sous influence, s'ils ont peur. Là, l'argument de dire que c'est nouveau, le numérique, c'est nouveau, vrai. Mais pourquoi il y a des juridictions qui sont capables d'aller chercher les revenus? Ce n'est pas d'augmenter le fardeau fiscal, c'est de respecter une forme d'équité fiscale. Pourquoi une entreprise doit imposer les taxes alors que l'autre n'est pas obligé de le faire? Et c'est vrai en télécom, c'est vrai dans le domaine de la location de logement. Pourquoi je paierais une taxe de vente quand je vais dans un hôtel puis qu'il n'y a pas de perception pour un service comme celui-là? Alors, donc, Mme Joly a dit, c'est pas moi qui décide. Ça, c'est vrai. C'est le ministre des Finances. Mais tu sens cette espèce de frilosité du gouvernement fédéral. Peut-être que le lobby est trop fort. Peut-être qu'on sait qu'il y en a beaucoup de lobbyistes là, qui font des pressions puis qui rencontrent des ministres puis le premier ministre. On nous garantit des investissements. Puis c'est, ben voyons donc. D'abord, c'est injuste. La technologie permet de le faire et ce serait nettement plus équitable pour l'ensemble des commerçants si on veut jouer dans cette ligue-là. Aussi, ce matin, dans la presse, la caisse qui s'impose chez SNC-Lavalin. D'abord, ça ne va pas très bien chez SNC-Lavalin. L'action a beaucoup baissé. Et depuis le printemps, la caisse a augmenté sa participation dans l'actionnariat de SNC-Lavalin. On est à peu près à 20 % contre 15 % au mois de mars. Donc, ce sont des achats d'actions, donc des blocs massifs, et qui positionnent la caisse de dépôt à la hauteur de 20 % Depuis ce temps, et pour toutes sortes de raisons, on sait que les marchés, ça va pas très bien, là. Votre portefeuille a été pas mal dégarni dans les derniers jours. Donc, la valeur de l'action de SNC-Lavalin a baissé et on pense que ça pourrait peut-être mener à une prise de contrôle venant de l'étranger. Et on connaît tous les démêlés. On sait que SNC-Lavalin est dans un litige avec le gouvernement fédéral, avec la GRC, le service des poursuites pénales du Canada qui ne veut pas négocier d'accord concernant des accusations de fraude et de corruption déposées il y a 3 ans par la GRC, donc pour des événements qui sont survenus en Libye. Alors, est-ce que SNC-Lavalin pourrait tomber entre les pattes d'une multinationale étrangère? À suivre. En tout cas, disons que l'action n'est pas en très bonne santé. Quelques autres nouvelles rapides pour terminer. Négociations climatiques assez tendues, je vous le disais hier matin. Les Américains, mais d'autres pays producteurs de pétrole qui ne veulent pas qu'on impose d'autres mesures plus strictes, considèrent que c'est irréaliste, alors qu'il y a des rapports scientifiques qui doivent être déposés et qui sont quand même assez, assez percutants. Il y a ce rapport qui a été rendu public hier qui nous dit que l'Arctique se réchauffe et que finalement, quand vous regardez les tendances des dernières années, cette année-là, c'était la deuxième plus chaude en Arctique depuis 1900. Et la tendance semble vouloir se maintenir. Alors, on va parler avec Sylvain Godreau, d'ailleurs, tantôt, le député du Parti québécois, qui est à la conférence et qui est le critique en matière d'environnement. On va faire la pause. Il est 6h22. Un accident à quel endroit, Marc?